sans que. Si vous pouvez défendre quelques-unes de vos opinions avec ces phrases clés, c'est quelque chose. Exercez-vous, practice hard. Until next time, goodbye.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Camille Grosdidier pour un bulletin d'information. Le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, chargé par l'armée de conduire la transition au Burkina Faso suite au départ de l'ex-président Blaise Compaoré, a annoncé samedi le rétablissement de la Constitution. Elle avait été suspendue après la démission de Compaoré suite aux violentes manifestations de rue contre sa tentative de briguer un autre mandat. Monsieur Zida a par ailleurs réclamé aux acteurs de la classe politique d'identifier d'ici au dimanche 16 novembre à midi heure locale les candidats à la présidence de transition. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui s'était déclarée fin août à Djira dans la province de l'Équateur est terminée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Félix Kabange Numbi. Il a invité les populations à pratiquer des mesures d'hygiène scrupuleuses, notamment en se lavant les mains au savon ou encore à la cendre. Ils doivent également éviter de consommer des animaux retrouvés morts dans la forêt dont la chair pourrait être contaminée par le virus à Ebola. Par ailleurs, un chirurgien sierra-léonais souffrant de l'Ebola a été évacué samedi vers les États-Unis. Le docteur Martin Salia travaillait à l'hôpital Connaught de Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il est le premier ressortissant sierra-léonais souffrant d'Ebola à être transporté aux États-Unis, pays où l'on a déjà traité 9 autres cas du virus. Il sera soigné au Nebraska Medical Center d'Omaha, l'un des hôpitaux spécialement équipés pour traiter les patients souffrant de la fièvre hémorragique. Tous les malades déjà traités aux États-Unis ont survécu, à l'exception d'un Libérien venu de Monrovia, qui est décédé le 8 octobre à Dallas, au Texas.
Une minute de sport, on commence avec le football. Le Cameroun a décroché sa qualification pour la CAN 2015 en battant la République démocratique du Congo samedi à Yaoundé 1-0. En déplacement au Lesotho, les étalons du Burkina Faso se sont imposés 1-0. Défaite du Mali battue 2-0 par le Malawi et les Black Stars du Ghana ont chuté 1-0 face à l'Ouganda. En tennis, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'est qualifié pour la 4e fois de sa carrière pour la finale du Masters en dominant le Japonais Kei Nishikori en 3-7, 6-1, 3-6, 6-0 samedi à Londres. Et en championnat nord-américain de basketball, la NBA, LeBron James a inscrit 41 points pour mener Cleveland à la victoire face à Boston vendredi soir, 122-121, un match acharné. En tant que seule superpuissance au monde, les États-Unis ont une responsabilité unique, a déclaré Barack Obama samedi dans un discours à l'Université du Queensland à Brisbane, en Australie. En marge du sommet du G20, le président américain a souligné qu'il incombe aux États-Unis de détruire l'État islamique, de mener la riposte internationale contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et de lutter contre le changement climatique. Mais il a également promis que Washington reportera également ses efforts sur la région Asie-Pacifique. Toujours concernant le G20, le premier ministre australien Tony Abbott, qui a ouvert la rencontre à Brisbane, a appelé les dirigeants des 20 grandes puissances économiques de la planète à appuyer une initiative visant à renforcer la croissance de l'économie mondiale. Et pour ce faire, il leur a demandé de débourser jusqu'à 2 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. Entre-temps, le président russe Vladimir Poutine, qui a été confronté à de vives critiques sur l'intervention russe dans l'est de l'Ukraine, aurait décidé de quitter le G20 plus tôt que prévu, selon ses collaborateurs. Le général américain Martin Dempsey, président du comité des chefs d'état-major interarmés, a effectué samedi une visite surprise en Irak. À cette occasion, il s'est entretenu avec des responsables irakiens et des commandants des troupes américaines de la prochaine phase de la guerre contre les djihadistes de l'État islamique. Et puis, le président Barack Obama affirme que les États-Unis ont pris la tête du mouvement qui s'oppose à l'agression russe contre l'Ukraine. Il s'exprime en marge du sommet du G20 en Australie. Il a déclaré que la Russie est une menace pour le monde, comme on a pu le constater avec l'accident du vol de la Malaysia Airlines, le MH17 abattu par un missile dans l'est de l'Ukraine en juillet. Par ailleurs, les dirigeants du G20 se sont déclarés profondément concernés par l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Ils ont promis de faire tout leur possible pour éradiquer la fièvre hémorragique à virus Ebola. Celle-ci a déjà fait plus de 5100 morts en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé. Néanmoins, les dirigeants du G20 n'ont pas dévoilé d'engagements financiers supplémentaires.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La bordure sud-ouest du désert du Sahara, qui comprend des parties de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, est connue comme le Sahel. C'est un écosystème aride, extrêmement fragile, qui même dans une bonne année a du mal à produire suffisamment de nourriture pour sa population. Le Sahel a souffert de crises d'insécurité alimentaire qui ont touché des millions de personnes en 2005, 2009, 2010 et 2012. C'est un cycle sans fin dans la région qui ne peut être empêché, mais peut être atténué. Avec des taux élevés de malnutrition des enfants, même sous les meilleures conditions, une mauvaise récolte peut exposer de millions de personnes à de sévères risques. Et nous savons qu'en cas de sécheresse, d'inondation ou d'invasion de criquets, les populations les plus vulnérables sont inévitablement les plus durement touchées, souvent sans la possibilité de récupérer avant de connaître de nouveaux chocs, a déclaré l'administratrice adjointe de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, Nancy Lemberg, lors du lancement du plan d'intervention humanitaire des Nations Unies au début de février. Pour coïncider avec cette occasion, les États-Unis, à travers l'USAID, ont lancé un nouveau programme « Résilience améliorée au Sahel » ou « RISE », un effort étalé sur 5 ans et visant à renforcer la résilience dans les zones ciblées au Niger et au Burkina Faso. L'USAID s'engage à verser plus de 130 millions de dollars au cours des 2 premières années de cette initiative. Selon l'administratrice adjointe Lemberg, le programme donnera à environ 1,9 million de personnes les plus vulnérables de ces zones une chance de briser le cycle de la crise pour échapper à la pauvreté chronique et réduire leurs besoins d'aide humanitaire à l'avenir. Dans le même temps, l'USAID est en train de fournir un supplément de 85 millions de dollars en aide humanitaire en réponse à l'insécurité alimentaire aiguë au Mali, au Niger et au Tchad. Dans le Sahel, la population devrait doubler d'ici à 2050. Les défis augmentent de plus en plus, les enjeux sont élevés et le temps n'est pas de notre côté, a déclaré l'administratrice adjointe Lemberg. Satisfaire les besoins de ces populations et travailler ensemble pour réduire ces besoins à la base sont des éléments essentiels de toute stratégie visant une plus grande sécurité alimentaire et la réalisation de l'objectif du président Obama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.